Voilà, donc comme vous avez vu, nous sommes dans le temps du carême et durant cette semaine, nous avons regardé justement, nous avons regardé qu'est-ce que ça voulait dire le carême pour les personnes. Donc on a pu voir que c'est il y a différentes alternatives ou différentes possibilités. C'est vrai qu'une grande partie de ce qu'on entend, et surtout peut-être ici dans le monde catholique ou Québec, c'était un temps de privation. On se privait de telle nourriture ou de telle chose et comme ça. Mais pourquoi qu'on veut fêter ou pourquoi qu'on veut mettre en avant cette année le carême, on va vous l'expliquer tout à l'heure. Donc, le carême, c'est une saison qui mène à Pâques, une période où justement les chrétiens ont historiquement préparé leur cœur à Pâques avec réflexion, repentance, prière. Donc, le carême commence le mercredi de Cendre, c'est-à-dire mercredi passé. On l'appelle le mercredi des cendres parce qu'il y avait la tradition, comme on est poussière et on retourne poussière après notre mort, les cendres aussi dans l'Ancien Testament, c'était l'occasion justement de démontrer notre humilité, notre repentance. Alors voilà pourquoi on l'appelait le mercredi des cendres. Et c'est pendant 40 jours jusqu'à la semaine sainte, jusqu'au vendredi saint, en temps vraiment aussi pour pouvoir se préparer à ce que Jésus-Christ est venu faire aussi sur cette terre. Donc, voici ce que l'Église méthodiste du Canada nous a encouragé cette année à participer. Je vous ai envoyé cette semaine un courriel avec aussi les réflexions pour chaque semaine. On va en prendre de temps en temps aussi durant les temps de prière, aussi dans une cellule, aussi ici à la prédication pour nous rappeler aussi de l'importance de ce temps. Donc, voici ce que dit l'Église méthodiste du Canada. Le carême est une ancienne tradition de l'Église qui pratiquait avec un cœur droit et pas seulement comme un devoir religieux, peut constituer une expérience spirituelle significative. Donc, imaginez si l'Église, globalement, le corps du Christ, qui met 40 jours de côté pour se rappeler le sacrifice de Jésus, pour se rappeler l'amour, les promesses et examiner notre propre vie, justement, et poursuivre la réconciliation dans toutes nos relations. Voilà pourquoi que l'Église méthodiste du Canada a décidé cette année de reprendre cette ancienne tradition, de la remettre aujourd'hui à jour pour qu'on puisse vraiment aussi méditer. Comme vous allez voir, justement, le carême, ce n'est pas l'idée de prendre une ancienne tradition puis faire comme avant. C'est vrai que vous connaissez, je ne suis pas non plus une personne qui aime forcément suivre les traditions, mais ce que le carême présenté pour les chrétiens dès les premiers temps est important. Et voici un peu le calendrier de l'Église. Auparavant, l'Église ne regardait pas selon le calendrier comme aujourd'hui grégorien avec les saisons et les mois, mais regardait par rapport à des périodes vraiment significatives. La première, c'était l'Avent, qui met l'accent sur l'anticipation de la venue de Dieu dans le monde, tant que dans l'incarnation et dans le retour de Christ. Donc, avant Noël, un temps pour nous préparer. Qu'est-ce que Jésus est venu faire à Noël? Ensuite, Noël se concentre sur la naissance de Christ, l'espérance de Christ. Ensuite, la troisième, c'était l'Épiphanie, qui se concentre sur la lumière de la présence de Dieu qui brille dans le monde. Ensuite, le carême, justement, que nous sommes maintenant, se concentre sur le péché humain et les gracieuses solutions de Dieu. La Pâque, donc dans la semaine sainte, se concentre sur la vie de résurrection, de ce que Jésus-Christ est venu offrir. Et la dernière, Pentecôte, se concentre sur l'activité de l'Esprit-Saint dans le monde. Donc, on voit que ces traditions ne sont pas arrivées comme ça parce qu'il fallait faire des choses, il fallait faire des rituels, mais c'était pour préparer les gens dans des périodes spécifiques. On a besoin, des fois, de reprendre un peu peut-être certaines traditions, de les dépoussiérer dans le sens de ne pas faire quelque chose parce qu'on doit le faire, pas peut-être pas la façon comment, peut-être même ici, peut-être dans beaucoup d'églises, ils le font, mais de réaliser que ce temps est là pour propice. Et surtout, je crois que cette année, avec tout ce qui se passe, avec la pandémie, avec la guerre, avec toutes sortes de situations, on a besoin de nous concentrer sur Dieu, dire Seigneur, où est-ce que je suis dans ma vie? Est-ce que je suis prêt à arriver vers Pâques pour t'accueillir réel? Est-ce que je suis vraiment, mon cœur est vraiment tourné vers toi jour après jour? Est-ce que je peux réaliser tout ce que tu es venu faire à travers ton sacrifice? Alors justement, l'Église méthodiste va proposer 40 jours de façon personnelle et introspective afin de nous préparer de ce que Jésus-Christ est venu apporter à l'humanité. Il est venu apporter la réconciliation avec notre Père céleste, la relation qui était perdue à cause du péché. Et donc la semaine première, qui vient donc du mercredi, donc jusqu'au mercredi, c'était sur la repentance. On a dans le temps des cellules partagées sur la définition de la repentance, de la réconciliation. Et on voit que la réconciliation ne peut pas se faire sans repentance. Jésus-Christ est venu réconcilier le monde parce que nous étions à l'image de Dieu. Mais à cause du péché qui est arrivé dans la vie, nous avons été comme séparés de Dieu. Et Jésus-Christ est venu réconcilier une fois pour toutes. Mais pour cela, nous devons nous repentir, nous devons accepter de retourner vers le Seigneur, d'abandonner notre ancienne vie, nos péchés, pour venir dans les bras de notre Seigneur. Rappelez-vous justement au début de l'année 2022, on avait pris en texte, ouvrons notre Bible dans Agé chapitre 1. On va revoir juste justement comment que ce thème va nous inspirer durant toute cette année. Agé chapitre 1 verset 2 dit, voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes. Les gens de ce peuple prétendent, le temps n'est pas encore venu encore, le temps où le temple de l'Éternel doit être bâti. Le temps n'est pas encore revenu. Donc on voit que la forme verbale un peu qui est présentée ici indique qu'il y a vraiment un bas niveau de morale. Les gens étaient dans la lassitude. Ils s'impliquaient que justement les gens ne voyaient pas dans un proche avenir le fait de reconstruire le temple. Imaginez que le temple, c'est la présence de Dieu. Donc le peuple de Juda, en revenant de l'exil, devait construire en premier la relation avec Dieu. Mais ils ont préféré d'aller bâtir leur propre maison et de mettre un peu plus tard, dire c'est pas encore le temps, c'est pas le bon moment de construire, de rétablir la relation avec notre Dieu. On a dit durant les cellules que c'est vrai que la repentance, elle doit se faire jour après jour. Et c'est vrai qu'on doit normalement pouvoir régulièrement la faire. Mais nous devons avouer aussi en tant que chrétiens, c'est assez rare que nous soyons au top à chaque jour, que nous soyons vraiment passionnés pour Christ, que vraiment notre vie fonctionne bien, que nous sommes dans la joie, dans l'allégresse tous les jours. On vit aussi des bas niveaux moraux. On vit aussi des temps d'assitude. Et voilà pourquoi il y a des temps qui nous permettent de réfléchir, de faire une introspective de nous, pour nous permettre de dire, Seigneur, où est-ce que j'en suis dans ma vie? Et justement, un peu plus loin, Agé chapitre 1, verset 7, regardez ce qu'il dit. Voici ce que déclare le Seigneur des armées célestes. Réfléchissez donc bien à ce qui vous arrive. Réfléchissez bien donc à ce qui vous arrive. Et on voit aussi justement dans ces versets que vous pourrez lire à la maison, les conséquences du fait qu'ils ont laissé de côté de rebâtir le temple de Dieu. Ce bout de phrase, verset 7, on devrait le dire très souvent dans notre vie quotidienne, pour voir si encore on est dans les voies de Dieu, ou bien si nous sommes dans notre propre voie. C'est vrai, comme il est dit sur le diapositive, quand on s'installe dans le confort et la routine, il est relativement facile d'oublier, entre guillemets, l'heure qui est à la montre de Dieu, et de continuer notre petit train de vie. Quand tout va bien dans notre vie, quand les choses vont assez bien, on continue notre vie sans trop nous préoccuper de Dieu. Et quand arrivent des bouleversements, quand arrivent des situations dans notre vie, c'est là qu'on est un peu comme ébranlé, et on dit « Seigneur, Seigneur, j'ai besoin de toi ». Voilà pourquoi on doit réfléchir. Réfléchissez donc bien à ce qui vous arrive. Pourquoi tant tous ces malheurs? Même si nous savons que ces malheurs doivent arriver, mais pourquoi tant de chrétiens qui sont dans l'assitude? Pourquoi tant de chrétiens qui sont dans l'inquiétude, dans la peur par rapport à tout ce qui se passe? La pandémie, la guerre, tout cela a bouleversé nos vies, nos façons de faire les choses, comme aussi à l'Église. Et c'est vrai qu'on ne veut pas revenir comme il y a 2 ans, mais on doit maintenant voir, dire Seigneur, qu'est-ce que tu veux nous dire en tant qu'Église? Qu'est-ce qu'on a appris de ce temps? Vous savez que l'Église, tout au long des siècles, a fait beaucoup des fois des compromis avec le monde, surtout des fois dans les moments troubles. Je parlais avec un ami pasteur cette semaine qui me parlait du convoi de la liberté. Rappelez-vous, ce convoi de camionneurs qui est arrivé jusqu'à Ottawa, qui a fait le siège d'Ottawa pendant plusieurs semaines. Lui-même était interpellé parce que dans son église, ce convoi a été quelque chose de très fort. Il me racontait que justement, une partie des personnes qui ont été avec ce convoi sont des chrétiens. Sont des chrétiens parce que pour eux, le but d'aller sur Ottawa, écoutez bien ce que je veux dire, c'était de renverser le gouvernement Trudeau. parce qu'ils trouvaient que le gouvernement Trudeau libéral ne prenait pas des lois qui encourageaient les chrétiens. On voit que le gouvernement, c'est vrai, limite de plus en plus notre vie chrétienne, met des bâtons dans les roues, entre guillemets, par différentes lois. Et eux, leur but, c'était justement de marcher sur Ottawa pour renverser le gouvernement Trudeau. Et même les klaxons des camions, pour eux, c'était comme de sonner les trompettes, comme on voit souvent dans l'Ancien Testament. Sonnez les trompettes, réveillez-vous. Voilà pourquoi qu'ils ont sonné, ils ont mis les klaxons pendant des heures et des heures. Quand j'ai entendu ça et quand j'ai entendu l'effet que ça fait aussi dans leur église, il y a eu des personnes qui sont parties, il y a des personnes qui ont été tellement ébranlées que l'église vit des situations difficiles. Je me suis posé la question, Seigneur, est-ce que c'est notre mandat en tant que chrétien de renverser un gouvernement? Est-ce notre mandat de klaxonner peut-être, oui, pour réveiller les gens, mais en même temps aussi pour déranger les autres? L'Église vit une situation où elle se compromet avec le monde. Voilà pourquoi nous devons réfléchir. Voilà pourquoi que ce temps de carême est important. Nous devons faire attention dans nos discussions, comme on l'a dit la semaine passée, dans nos façons de réagir devant tout ce qui se passe, que notre mandat en tant que chrétien n'est pas le même mandat que le monde autour de nous. Oui, nous pouvons avoir nos opinions. Oui, nous pouvons avoir nos préférences. Mais nous devons toujours agir pour le bien de la communauté. Nous devons toujours agir surtout pour la gloire de Dieu. Nous devons toujours agir pour que l'Église soit la lumière du monde. Voilà pourquoi que justement les termes utilisés dans le verset 8 sont importants. Une occasion vraiment d'aller sincèrement vers Dieu, de se repentir, de se connecter avec notre Seigneur d'une façon nouvelle et complète. Agis chapitre 1, verset 8. Allez à la montagne, rapportez-en du bois, bâtissez le temple, j'y trouverai plaisir, j'en serai glorifié, déclare l'Éternel. On avait vu justement au début de l'année ces trois termes qui sont importants. Le premier, c'est monter, ça veut dire aller. Monter aussi, ça veut dire s'approcher de Dieu, être plus près de lui. Le Seigneur désire qu'en cette année 2022, et surtout dans ce temps de carême, nous puissions vraiment nous rapprocher de Dieu d'une façon nouvelle. Nous puissions commettre, justement, en ayant plus de temps avec le Seigneur, discerner sa volonté pour nous, pour l'Église, comprendre les temps qui se passent autour de nous. Nous sommes, dans ce temps de carême, appelés à monter sur la montagne, à la rencontre de Dieu, de faire quelque chose pour Dieu. Le deuxième verbe utilisé, c'est « apporter ». Dieu ne demandait pas justement aux Israélites d'apporter le bois ou comme il écrit leur lambris qu'ils avaient utilisé pour leur propre maison. Mais il fallait qu'ils montent sur la montagne pour aller chercher du bois neuf, des matériaux nobles pour la construction du temple qui était dans la présence de Dieu. Donc ce temps venu pour nous aujourd'hui, nous rapporter nos soucis, nos problèmes, nos questions au Dieu Tout-Puissant. Tout ce qui peut faire obstacle, justement, à une véritable marche chrétienne avec le Seigneur. Il faut aussi, justement, que nous apportons le meilleur de nous-mêmes, ce qui est le plus précieux, tous les matériaux le plus adéquats, le meilleur moment de notre journée, elle est au Seigneur, puisque nous sommes ses enfants. Dieu veut nous utiliser pour son royaume. Chacun de nous a quelque chose, a un rôle particulier à jouer dans ce temps que nous vivons. Que ce soit par la prière, que ce soit peut-être par la prophétie, peut-être par rapport à une autre, par rapport à partager la parole de Dieu. On est appelé à faire quelque chose, à apporter, à bâtir pour le Seigneur. Et le troisième terme est bâtisser. On peut apporter tout le matériel devant la maison du Seigneur, puis on peut laisser là. Rien ne va se bouger, rien ne va se faire. On ne peut pas simplement juste réfléchir à nos conduites. Il faut monter vers Dieu. Il faut s'approcher de son trône de grâce. Ensuite, il faut apporter nos fautes, nos manquements, nos priorités devant Dieu. Il faut lui donner le meilleur de nous. Et maintenant, nous devons bâtir. On doit retrousser les manches, faire des efforts pour construire ce royaume. Que ce soit premièrement pour nous bâtir nous-mêmes, pour être de plus en plus comme Dieu le désire, à travers la sanctification. Mais c'est aussi de bâtir son royaume vers les autres, en démontrant aux autres ce que Dieu a fait pour eux aussi. Si quelqu'un veut bâtir avant de réfléchir sur sa conduite, avant d'apporter ses priorités devant Dieu, le Seigneur ne pourra pas faire grand-chose avec lui. Et le dernier verbe, Dieu sera glorifié, de le remercier, de le louer pour tout ce qu'il est pour nous, tout ce que Dieu a fait pour nous, comme on l'a fait ce matin et comme on l'a fait tout à l'heure aussi, à travers aussi le repas du Seigneur. dès le matin, tout ce que nous faisons doit glorifier Dieu seul. Tous nos paroles, nos actes, nos agissements doivent glorifier Dieu seul. Voilà pourquoi que nous avons besoin de dire, Seigneur, tout ce que je suis, est-ce qu'il te glorifie? Est-ce que mes paroles, est-ce que mes actions, est-ce que mon témoignage, est-ce que ma famille, est-ce que dans mon travail, je glorifie Dieu? Donc, dans ces deux versets, 7 et 8, on a toute l'attitude que nous devons avoir en tant que chrétiens pour que nous puissions apporter du fruit pour l'avancement du royaume de Dieu. Lors de la cérémonie du mercredi des cendres qui était préparée par l'Église méthodiste, que vous pouvez aussi aller voir à la vidéo, le texte biblique a été cité est Ésaïe chapitre 58. Alors, ouvrons notre Bible, parce que nous allons voir pourquoi que la première semaine, nous avons besoin de se repentir devant le Seigneur. Ésaïe chapitre 58, versets 2 à 5. Alors, notre sœur Lise va le lire pour nous. Donc, elle peut mettre son micro et nous lire.
Tous les jours, ils me cherchent. Ils veulent connaître mes voies. Comme une nation qui aurait pratiqué la justice et n'aurait pas abandonné la loi de son Dieu. Ils me demandent des arrêts de justice. Ils désirent l'approche de Dieu. Que nous sert de jeûner si tu ne le vois pas? De mortifier notre âme si tu n'y as point égard? Voici le jour de votre jeûne, vous vous livrez à vos penchants et vous traitez durement tous vos mercenaires. Voici, vous jeûnez pour disputer et vous quereller, pour frapper méchamment du poing. Vous ne jeûnez pas comme le veut ce jour, pour que votre voix soit entendue en haut. Est-ce là le jeûne auquel je prends plaisir? Un jour où l'homme humilie son âme, courber la tête comme un jonc et se coucher sur le sac et la cendre. Est-ce là ce que tu appelles un jeûne, un jour agréable à l'Éternel? Amen.
Amen. Amen. Justement, dans ce texte, nous voyons qu'Isaïe va révéler au peuple, aux dirigeants, que le sort de jeûne qu'ils font n'est pas celui que Dieu prescrit. Non pas forcément de la façon de le faire, mais par rapport à l'intention, au résultat de ce temps de jeûne. Ces personnes vont faire le jeûne comme un rituel pour se montrer devant Dieu qu'ils sont justes, qu'ils font ce que Dieu demande. Ils ne viennent pas avec les bonnes intentions. Ils veulent, comme il est dit dans le verset 2 et 3, que Dieu voie tous les efforts qu'ils font pour être justes et conformes. Ils veulent que Dieu réponde à leurs prières selon leur volonté et non selon sa volonté. C'est pourquoi qu'il est dit dans la suite du verset 3 que rien n'a changé dans leur attitude ou leur comportement vers les autres. Ils continuent justement de traiter leurs affaires comme avant, d'exploiter les ouvriers. Leur relation avec les autres ne reflète pas ce qu'ils ont vu appris dans ce temps de jeûne. C'est vrai que la vie continue lorsque nous jeûnons, dans le sens où nous vont continuer à vivre, à régler des choses, à travailler. Mais si on prend un temps de jeûne comme le faisaient ces hommes, c'est-à-dire que nous jeûnons parce que l'Église le demande, parce que le pasteur le recommande, mais que cela ne change rien dans notre propre programme, que notre attitude vers les autres est la même, avec jugement, avec condamnation, avec mépris, Dieu peut nous poser la même question qu'il a posée au verset 5. Pouvez-vous appeler cela un jour de jeûne que l'Éternel agrée? Donc, il ne s'agit pas juste de se mettre en position de prière. Il ne s'agit pas juste, justement, de s'humilier en essayant par cette attitude d'attirer la sympathie de Dieu. Il ne s'agit pas juste de prier pour obtenir les réponses que nous désirons. Non, le véritable jeûne que Dieu préconise est beaucoup plus profond. Il faut s'humilier, avoir une véritable demande de pardon, de reconnaître nos fautes, de nos erreurs. Et par la suite, il faut démontrer que cette humiliation a produit quelque chose de différent en nous. Si nous faisons juste de faire le jeûne pour essayer de gagner la faveur de Dieu, pour démontrer aux autres que nous sommes des bons chrétiens, alors le but du jeûne sera faussé. Et Dieu va pouvoir nous dire la même chose qu'il a dit aux Israélites, que leur jeûne ne sert à rien. Je me rappelle qu'une fois, j'ai fait une fois un jeûne dans ma vie chrétienne, mais je n'étais pas vraiment du tout dans les bonnes dispositions. Je ne suis pas arrivé à faire ce jeûne. Je n'ai pas été capable de vraiment ressentir que c'était un temps propice avec Dieu. Parce que je n'étais pas disponible, je n'étais pas disposé réellement à le faire selon le Seigneur. Donc, le Seigneur le voit. Et dans la suite du chapitre 58, à partir du verset 6, regardez ce qu'il a dit. Ésaïe chapitre 58, verset 6 et 7, je vais les lire. Le jeûne qui me plaît est celui qui consiste à détacher les liens de la méchanceté, à délier les courroies de toute servitude, à mettre en liberté tous ceux que l'on opprime et à briser toute espèce de joug. C'est partager ton pain avec ceux qui ont faim et offrir l'hospitalité aux pauvres sans abri. C'est donner des habits à celui qu'on voit nu et ne pas le détourner de ton prochain. Voilà le véritable jeûne que préconise Dieu. Il ne s'agit pas simplement d'un rituel pour être bon, mais juste devant Dieu. Et dans ce temps de carême, c'est pas simplement juste de se priver de nourriture pour essayer de peut-être essayer de venir plaire à Dieu, pour faire comme les autres. Le véritable jeûne, justement, a besoin que ce ne soit pas seulement un rite purement extérieur, mais il implique une repentance réelle et refuse, justement, d'opprimer l'autrui. Il veut aider la famille. Il veut avoir toute une pleine d'humanité envers les nécessiteux. Donc, voilà l'importance dans ce temps de carême. De ne pas prendre ce temps parce que l'Église méthodiste nous le propose, mais de le faire d'une façon personnelle, complète et volontaire. Nous avons besoin de rentrer dans ce temps pour pouvoir faire le véritable jeûne. Mais le véritable jeûne n'est pas simplement juste de se courber ou de prendre un temps puis de ne pas manger. Mais regardez justement dans les versets que nous venons de lire. Le jeûne dit aussi votre vie. Il faut que votre vie reflète exactement ce qui est écrit dans ces deux versets que nous avons lus. Il faut que vraiment tous les jours, dans toutes vos actions, dans vos paroles, dans vos pensées, reflète ce qui est écrit. Et voici justement comment on va le faire. Et les premiers points, on peut le faire à travers la prière, à travers l'intercession et dans le combat spirituel. Premièrement, à détacher les liens de la méchanceté. On voit de plus en plus la méchanceté autour de nous. On voit aussi à travers la guerre. On a besoin de prier, d'intercéder pour que Dieu amène la paix, pour que Dieu amène la bonté, pour que Dieu amène la grâce aussi avec tout ce qui se passe, avec tous ceux qui sont peut-être méchants avec nous. Au lieu de peut-être de laisser des contrecarrer, simplement prier pour eux, pour que ce lien de méchanceté puisse disparaître. À délier les courroies de toute servitude. On voit tout autour de nous des gens et même des chrétiens qui servent Dieu, mais en même temps, ils servent maman, ils servent l'argent, ils servent le matérialisme, ils servent leur propre orgueil. On a besoin, par la prière, par l'intercession, de délier les courroies de toute servitude qu'on voit autour de nous. À mettre en liberté tous ceux que l'on opprime. On a besoin de se lever. On a besoin de se lever pour pouvoir faire quelque chose aussi pour les autres. On le voit autour de nous, comment tellement de Canadiens ou d'autres personnes sont prêts à aller dans les pays en Europe pour pouvoir aider justement les réfugiés ou d'autres situations. Nous avons besoin aussi de voir autour de nous tous ceux qu'on opprime, tous ceux qui n'ont pas de voix, tous ceux que peut-être on ne fait pas cas, d'aller vers eux et pouvoir leur donner la liberté de prier pour que ces personnes puissent rentrer réellement dans leur direction, dans ce que le Seigneur veut aussi pour eux, à briser toute espèce de joug qui est sur nous. On n'a pas besoin d'aller voir un prédicateur ou un prophète ou un évangéliste pour pouvoir prier. On peut le faire à travers la parole, on peut le faire avec des frères et sœurs, pour toute espèce de joug qui peut être sur nous, toute espèce de joug qui est autour de nous, dans nos familles, sur nos enfants, afin qu'ils puissent être délivrés et recevoir la grâce de Dieu. Les autres points que nous voyons peut se faire aussi dans l'action avec amour. Partager ton pain avec celui qui a faim. Si on voit quelqu'un qui est à côté de nous qui a faim, quelqu'un dans l'église qui peut-être perd son travail ou qui n'a plus assez d'argent financier, plus assez d'argent, on ne doit pas simplement dire « je vais prier pour toi », mais on doit l'accompagner, on doit lui donner quelque chose pour démontrer réellement notre action, notre amour. D'offrir l'hospitalité aux pauvres sans-abri. Je suis émerveillé de voir que justement en Pologne, dans les pays avoisinants justement la guerre en Europe, comment que les gens sont prêts à aller accueillir justement ces réfugiés qui ne connaissent pas mais sont prêts à laisser une ou deux chambres pour pouvoir les abriter. Est-ce que nous sommes prêts? Est-ce que nous sommes prêts peut-être à notre mesure ici au Canada de voir comment est-ce qu'on peut créer l'hospitalité aux pauvres sans abri, mais aussi peut-être d'offrir un repas, d'offrir peut-être un temps de retrouvailles avec des gens peut-être qui passent par des moments difficiles. Donner des habits à celui qu'on voit nu. D'être capable de subvenir aux besoins d'une personne, quelles que soient ses situations. Pas forcément juste des frères et sœurs chrétiens, mais autour de nous. Si nous le voyons, nous ne pouvons pas simplement détourner la tête et continuer notre chemin. Nous devons agir pour démontrer réellement que nous voulons faire le véritable jeûne que Dieu préconise. Ne pas se détourner de ton prochain. Lorsqu'une situation arrive, lorsque ton prochain, soit le frère et sœur dans l'église, ou autour de toi, ton collègue de travail, ou dans ton voisinage, vit quelque chose de difficile, ne te détourne pas. Vas-y, même si peut-être tu dois faire violence en toi pour dire, il faut que je fasse le pas. Je n'ai pas l'habitude, mais je vais le faire parce que je veux démontrer ce qu'est réellement Dieu est pour moi. Ce temps de carême est une occasion d'arriver à ce que Jésus-Christ est venu démontrer par son exemple. C'est vrai qu'on fête à chaque année la Pâque, le sacrifice de Jésus. Et c'est vrai que c'est la fête ultime pour nous en tant que chrétiens. Mais peut-être ça peut venir une simple routine. On est tellement habitué de remercier le Seigneur pour son sacrifice qu'on ne sait plus réellement tout l'impact que Jésus-Christ, lui le Fils de Dieu, est venu. Tout ce qu'il a enduré, tout ce qu'il a souffert pour nous donner la vie, pour nous réconcilier. Alors terminons justement par regarder les conséquences du véritable jeûne. On va demander à notre sœur Louise de lire Ésaïe chapitre 58, versets 8 à 11. Ésaïe chapitre 58, versets 8 à 11.
Alors ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et il dira, « Me voici. » Si tu t'éloignes du milieu de toi, si tu éloignes du milieu de toi le joug, les gestes menaçants et les discours injurieux, si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasis l'âme indigente, ta lumière se lèvera sur l'obscurité et les ténèbres seront comme le midi. L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasira ton âme dans les lieux arides et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Amen.
Amen. Amen. Tu ressembleras à un jardin bien arrosé, à une source vive aux yeux intarissables. Alors voici justement, regardons brièvement les bénédictions du véritable jeûne. Verset 8. Jaillira ta lumière, ton rétablissement s'opérera bien vite. On peut vivre des choses difficiles en tant que chrétien, les épreuves de la souffrance. On peut vivre de l'injustice, mais si nous vivons réellement pour le Seigneur, il a dit justement que tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Le rétablissement est là. La justice marchera devant toi. Justement, même si nous vivons des injustices, même si nous sommes condamnés par les autres, un jour, Dieu nous rendra justice. La gloire de l'Éternel sera l'arrière-garde. Dans tout ce que nous allons faire, donc justement que nous allons marcher en avant, la gloire de Dieu sera là. Les gens vont pouvoir voir, vont pouvoir dire oui, cette personne vit réellement selon le Seigneur. On voit la gloire de Dieu. On voit comment que ça transforme, comment que ça agit. Le prochain, verset 9. Quand tu appelleras, l'Éternel répondra, je suis là. Combien de fois que nous prions, Seigneur, viens à mon secours, puis on n'attend pas sa réponse ou on reçoit pas de réponse. Est-ce que nous sommes vraiment dans le jeûne que le Seigneur veut? Est-ce que nous sommes vraiment dans l'attitude que le Seigneur désire? Quand tu crieras à l'aide, il dira, je suis là, je suis là. quel que soit ce que nous crions, quelles que soient nos situations, le Seigneur va répondre, va nous donner le calme, va nous donner la paix. Verset 10, quand la lumière luira pour toi au milieu des ténèbres, dans tout ce que nous voyons autour de nous, la lumière de Dieu va éclairer, va nous montrer le chemin, va nous montrer comment vivre jour après jour. Ensuite, dans les versets 11, l'Éternel sera ton guide constamment. C'est une promesse de dire, Seigneur, même dans les temps troubles que nous vivons, tu seras mon guide, c'est toi qui vas me diriger, c'est toi qui vas me conduire sur le chemin de ta volonté. Il pourvoira tes besoins dans les déserts arides. Même si nous vivons des temps difficiles, même du côté financier, Dieu est capable de répondre à nos besoins. Lorsqu'on passe par des temps difficiles, de déserts, qui sont durs, difficiles, Dieu sera là à nos côtés. Il te fortifiera, ressembleras un jardin bien arrosé, à une source vive aux eaux intarissables. Combien de fois que nous aimerons être ce jardin bien arrosé, ce jardin qui fleurit, ce jardin qui fait envie, ce jardin qui est plein de bonnes odeurs, qui est plein de vie. Alors voilà une sorte de bénédiction que Dieu a pour nous. Alors nous ne pouvons pas simplement les chercher pour pouvoir dire « Seigneur, j'ai besoin de ces bénédictions », mais de réaliser que si nous faisons le véritable jeûne, si nous prenons le temps de nous repentir, si nous prenons le temps de vraiment de faire une introspective de nous-mêmes, et si nous marchons réellement avec le Seigneur le voit, et Dieu va agir pour nous. Dans ces versets, c'est le véritable jeûne, la véritable vie avec Jésus. Ce n'est pas simplement juste pour la vie, pour l'éternité plus tard, mais c'est pour maintenant. Dieu a quelque chose de merveilleux pour chacun de nous. Alors, pour terminer, justement, dans ce temps de carême, on peut se poser des questions, réfléchir à notre conduite, voir si les promesses de Dieu peuvent s'accomplir aussi pour moi. Pourquoi que peut-être des fois nous avons l'impression que notre Église n'avance pas, qu'il y a peut-être un certain relâchement, un manque d'enthousiasme. Si nous pratiquons le véritable jeûne, comme Isaïe le dit, les grâces et bénédictions de Dieu sont présentes dans nos vies et celles de notre Église. Comme on a expliqué tout à l'heure aussi avec les défis financiers, si réellement nous étions engagés pour le Seigneur, nous serons prêts à donner pour le Seigneur, à donner d'une façon généreuse pour l'avancement de son royaume, pour l'avancement de son Église, pour qu'elle puisse continuer d'être celle et lumière. Dieu est bon, il veut partager avec chacun de nous ses bontés. Il veut vraiment que nous puissions avoir un attachement qui est concret et que dans ces temps difficiles, de voir la puissance de Dieu se manifester. Alors simplement couvre notre tête pendant que le groupe de louanges revient. Et on veut simplement prendre deux chants pour nous préparer à prendre ce repas, à prendre cette sainte scène. Je sais que le temps avance, mais réfléchissons aujourd'hui. Nous avons l'occasion de prendre ce repas pour dire, Seigneur, je me rappelle ce que tu as fait sur la croix. Seigneur, est-ce que je suis digne? Est-ce que je suis digne de pouvoir m'approcher de toi? Chacun de nous pouvons prendre ce repas pour avancer. Mais nous devons nous repentir. Nous devons demander pardon. Nous devons dire, Seigneur, j'ai encore besoin de ta force. J'ai encore besoin d'un renouveau spirituel dans ma vie. J'ai encore besoin que tu viennes me visiter d'une manière particulière et principalement dans ce temps, afin que je puisse être prêt à recevoir ta grâce, afin que je puisse comprendre, saisir ce que tu m'appelles en tant que chrétien. Le monde a besoin de voir des véritables chrétiens. Aujourd'hui, l'Église est compromise avec le monde. On le voit tout autour de nous. Si nous voulons faire une différence, si nous voulons avoir la paix, Dieu a besoin de voir des hommes et des femmes qui sont prêts à le servir. Alors simplement, prenons ces deux chants et réalisons que le Seigneur veut accomplir quelque chose de merveilleux encore avec nous. Comme nous l'avons entendu, on a besoin de vraiment se mettre entièrement à Christ. C'est ce que nous voulons faire aussi à travers ce repas, se rappeler justement ce que Jésus a fait pour nous. Le sacrifice, comme il est dit, ce n'est pas simplement juste pour simplement que nous puissions être meilleurs, mais c'est pour pouvoir donner la vie, la véritable paix de Jésus-Christ. Alors, après, quand on va distribuer les éléments, on va prendre une partie du deuxième chant pour que nous puissions continuer dans cette réflexion. Dire, Seigneur, oui, j'ai besoin de me purifier, j'ai besoin de me laver en toi. J'ai besoin que ce sang qui purifie, ce corps qui était brisé pour nous, pour moi, puisse vraiment avoir un impact dans ma vie de tous les jours. Ah oui, Seigneur, on veut se présenter devant toi, tel que nous sommes. Nous sommes loin d'être parfaits en toi. Nous avons tous besoin pour de nous repentir, de réaliser que lorsque nous nous présentons devant cette table, il y a encore tellement de choses qui ne te honorent pas dans nos vies, qui ne te glorifient pas. Seigneur, nous ne voulons pas simplement juste voir aux autres, nous voulons voir à nous-mêmes en premier. Permets, Seigneur, qu'à travers ces éléments, tu puisses encore continuer de nous guérir, tu puisses continuer de nous pardonner, de nous restaurer, que nous puissions voir que, Seigneur, nous avons une tâche, Seigneur, d'être saints devant toi, d'être purifiés comme on vient de le chanter, et que, Seigneur, nous puissions être des témoins fidèles, des modèles autour de nous, afin que par toi seul, nous puissions avoir la paix, que par toi seul, les choses vont bouger, vont changer. Alors, écoutons ce que la Bible nous dit. Dans la nuit où il fut livré, Jésus prit du pain. Et après avoir rendu grâce, il le remplit et en donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Que le corps de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a été donné pour vous, garde vos corps et vos âmes pour la vie éternelle. Prenez et mangez ceci en mémoire de Jésus-Christ qui est mort pour vous. Et nourrissez-vous de lui de tout votre cœur, par la foi, avec action de grâce. De même, après le repas, il prit la coupe, et après avoir rendu grâce, il leur donna en disant, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance qui est répandu pour vous et pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. Que le sang de notre Seigneur Jésus-Christ, qui a été versé pour vous, garde vos corps et vos âmes pour la vie éternelle. Buvez cette coupe à mémoire du sang de Jésus-Christ, répandu pour vous, et soyez reconnaissants.
Seigneur notre Dieu, te disons sincèrement merci pour ta présence au milieu de nous ces jours. Merci pour l'adoration. Merci pour la Sainte Cène. Merci pour ta parole, Seigneur. Je recommande ton Église à ta grâce. Bénis ton peuple. Dans ces temps difficiles, Seigneur, nous avons besoin de toi. Toi seul, tu peux faire de grandes choses pour ton peuple. Merci, notre Dieu. Nous sommes infiniment reconnaissants pour tout ce que tu fais. Et tout ce que tu feras pour nous. Parce que tu es notre Dieu, tu es notre Papa. Sans toi que nous confions tous nos problèmes, Seigneur, notre confiance est en toi. Nous avons besoin de toi, Seigneur, aujourd'hui. Viens, bénis ton peuple. Merci pour ta présence. Merci parce que tu as seul dirigé cette réunion. Voici maintenant la fin de ta Dieu. Nous recommandons ta grâce pour que la paix de notre Seigneur Jésus, l'amour du Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit nous accompagnent. Dans le nom de Jésus, nous te bénissons. Amen.
Amen.
Amen. Amen.